Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans le visage du monde. Petite chronique scientifico-culturo-poétique. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte des apiculteurs de l'extrême chez les Gurung du Népal. Deux fois par an, les chasseurs de miel se réunissent sous des falaises abruptes de l'Himalaya, où vivent les plus grosses abeilles du monde. Elles portent le nom d'Apis dorsata laboriosa. Longues de 3 cm, elles sont aussi imposantes que des frelons. La récolte commence par l'allumage d'un feu, dont le but n'est pas de produire de belles flammes jaunes, mais plutôt une épaisse fumée blanche. Elle commence par piquer les yeux des hommes avant de s'élever vers les essaims qui se déploient jusqu'à 100 mètres au-dessus du vide. Des rayons dorés, en arc de cercle, d'1,50 m de diamètre, pendent, gorgés de miel. Ils représentent la timbale à décrocher. Les hommes qui vont monter là-haut sont ceux qui prennent le plus de risques et sont nommés gourous, ce qui signifie « maître ». Les anciens tissent des échelles de fibres de bambou que les gourous emprunteront pour se hisser le long de la falaise. Armés de 2 perches de bambou, ils s'élèvent dans la fumée jusqu'à la hauteur des rayons. Ils ne portent pas de combinaison spéciale et sont assaillis par les abeilles en colère. Avec une perche, l'homme pousse un panier sous les seins. Avec l'autre, il détache le rayon jusqu'à ce qu'il tombe dans le panier, qui est ensuite descendu au pied de la falaise. Un vrai travail d'équilibriste. Si l'échelle de corde cède, c'est la mort assurée. En bas, le miel est pressé à main nue. Les hommes se font aussi piquer. Après 2 à 3 heures de cet intense labeur, les apiculteurs ont des allures de boxeurs, les yeux pochés, le visage boursouflé par leur lutte à mort contre l'insecte. Que de souffrances traversées par les abeilles et par les hommes afin de se délecter de la douceur du miel. Quittons maintenant la beauté de l'Himalaya et nos rêves de goûter au miel des falaises, car je vous emmène sur un territoire bien plus proche de chez nous. Nous restons dans le monde des insectes, mais attention, préparez-vous, car l'épisode qui va suivre est proprement terrifiant. Je vous invite à entrer dans le musée des horreurs de la nature. Et je vous présente le nématomorphe, un parasite qui ressemble à un long fil épais. Ce ver ne se contente pas de vivre dans le corps de son hôte, il manipule aussi son comportement et le pousse carrément au suicide. Au stade larvaire, le nématomorphe vit dans le corps des insectes terrestres comme les grillons, sauterelles, cafards ou scarabées. Une fois devenu adulte, il n'a plus besoin d'un hôte, il peut se suffire à lui-même. Mais ce qu'il veut, c'est vivre dans l'eau, un endroit où grillons et criquets ne mettent jamais les pattes. Qu'à cela ne tienne, le parasite va inciter l'insecte à se jeter à l'eau. On peut alors observer un criquet qui se rapproche de plus en plus dangereusement du bord d'un étang, puis y plonge sans hésitation. Pendant que l'insecte se débat, le ver sort du corps de ce dernier en se tortillant. Puis il s'enfuit en nageant, sans un regard en arrière pour sa victime qui continue de se débattre. Aucune chance qu'il s'en sorte. Son seul avenir, la noyade. Mais comment le nématomorphe réussit-il à manipuler le comportement de l'insecte? Il semble que les gènes du ver, qui sont programmés pour que cet animal veuille aller vers l'eau, agissent aussi sur l'insecte hôte. Le parasite injecte des protéines dans le système nerveux de sa victime qui lui permettent de contrôler ses mouvements. Ces recherches pourraient bien aider à mieux comprendre et contrôler certaines maladies chez l'homme, comme la maladie du sommeil, transmise par les mouches tsetse, ou le paludisme, transmis par les moustiques. Car les parasites vecteurs de ces maladies changent eux aussi le comportement de leurs hôtes. C'est-à-dire que les mouches et les moustiques infectés auront plus tendance à piquer que ceux qui sont sains. Horrible tout cela, n'est-ce pas? Alors, quittons le musée des horreurs de ce pas pour une information beaucoup plus mignonne, puisque nous allons parler des chats.
Le visage du monde sur Radio Sainte-Afrique.
Mignons, mignons les chats, bien sûr. Mais ils sont aussi connus pour leur caractère têtu, indépendant et parfois franchement irrespectueux vis-à-vis de leurs compagnons humains. Certains pensent même que ce sont eux les maîtres et nous les animaux de compagnie. Une étude menée par les chercheurs de l'Université de Tokyo démontre que les chats reconnaissent tout à fait la voix de leur maître lorsque celui-ci les appelle. Ils ont diffusé des enregistrements de voix d'inconnus et des propriétaires d'une vingtaine de chats. À la diffusion des voix, les scientifiques ont observé les réactions des animaux. Dilatation des pupilles, mouvement des oreilles, de la queue, etc. Ils ont pu établir que les chats adoptent des réactions différentes lorsqu'ils entendent la voix de leur maître et celle d'un inconnu. On peut donc en déduire qu'ils distinguent les différentes voix. Mais ils choisissent bien souvent de ne pas réagir, d'ignorer nos appels. Cause toujours, humain.
For you tonight, I prayed that you'd come back. No guilt, no more. No guilt, no more. You left me there again inside your crying game. No guilt, no more. No guilt, no more. Today, say no guilt, no more. No guilt, no more. I wonder if you can tell the pain I feel is hell. Can't do no more. I can't do no more. I know each time we'll meet, you'll sweep your little feet. But on me no more. On me no more. Today.
C'était « No Guilt, No More » d'Émilie Loiseau. Allons maintenant nous réfugier en poésie avec deux poétesses. La première est Ananda Devi, originaire de l'île Maurice. Je vais lire quatre poèmes extraits de son recueil intitulé « Quand la nuit consent à me parler », paru aux éditions Bruno Doucet. À l'aube, tu descendras pieds nus, boire à la rivière, comme ces chats muets aux pattes cramoisies. Tu glisseras sur les pentes, endormi de plaisir, suivre la piste argentée des limaces écrasées. Tu iras au midi chercher l'évidence qu'un jour ici tu as vécu, qu'il y avait des enfants, des amis, un amour, une constance. De tout cela ne demeure que le ciel bas, les herbes grasses, l'eau violente, les ruches abandonnées. Tu tends l'oreille aux voix des passants jusqu'à ce que la nuit enfin consente à te parler. Je ne vous connais pas. J'ignore jusqu'à votre nom. Votre visage m'est étrange, balafré de sa rage. Quand vous déchirerez ma page, vous saurez qui j'étais. Un trou, un remous, un déchet sur un rêve. Vous, le maître de nos destins, dont je ne connais pas le nom, d'où vous vient cette colère, cette fureur sans pardon? J'ai eu beau fuir, vous me ramenez, me tirant par les cheveux, comme la dernière des damnées. Que cette pluie soit la dernière, le dernier mot de la prière, avant que les lèvres s'éteignent dans la bouche du vent. Que cette marche solitaire, dans le sillon de vos pas, ne revienne plus en arrière, chercher les ailes percées. Que ma main obtempérée ne s'allie plus à une autre main, pour se refermer sur l'air de tous ces corps abandonnés. Que mon demain soit un hier, puisque rien n'est plus à faire, à construire ni à détruire. Rien est déjà là. Jamais. Ferme la porte, clôt ton destin. Efface du miroir le glacier de tes yeux. Tremble à genoux sur le seuil dérobé des vertus impossibles. Ne jamais être femme si le corps écartelé ne peut plus vous offrir sa glaire empoisonnée ni la soierie fine, si finement déchirée. Si richement démembrée par l'assaut des couleurs, quand le noir n'a plus lieu. Tissu de mes mensonges, du rire dissimulé derrière mes lèvres fermées. Si je ne m'éveille, repu de tous mes rêves, festives écorchures. Passons aux mots d'Amélia Néné, une poétesse de la République du Congo. Voici quatre poèmes issus du recueil « Fleurs de vie » des éditions Présence africaine. À maman. Comment expliquer que la mort délivrante que tu appelles à ton aide reste indifférente à tes cris, tes récriminations? À Fouti Joséphine. Arrête le jour où il me faut te quitter, toi qui m'as chéri, m'as donné le meilleur de toi. Arrête ce jour de peine qui me guette partout, concourt à ma ruine. Arrête ce jour, je veux te garder toujours, t'entendre me réconforte, me rassure. À Chikungulu, j'ai regret de savoir qu'un jour, je devrais partir pour ne plus revenir. Que ne peut ton pouvoir me porter jusqu'à la fin des temps? Fleur de vie. Un frisson la frôle, de fines perles glacées glissent le long des tempes brûlantes. Le cœur se déchire, le corps se tend, s'affaisse. Un vagissement cristallin envahit l'air, fait se dérider l'heureuse néophyte, se laisse engourdir, goûtant la satisfaction d'une longue attente qui la sacre mère. C'était Fleur d'Auger dans Le Visage du Monde. Un grand merci à Jean, à la technique. À bientôt.